Vincent Golojac, qui est un auteur que j'aime beaucoup, a dit « Je suis le produit de l'histoire dans laquelle je cherche à être le sujet. »
Oui, tellement.
Les Neurodivertissantes, le podcast qui célèbre l'unicité neurodivergente et qui explose les préjugés pour un monde plus inclusif. Épisode 37. Inclusion et handicap. S'attarder aux sens et aux images. Avec Sylvain Lemay. Avec vos animatrices Solène Métayer, Fran Deloum et Mélissa Saint-Louis. Accrochez-vous, il y a de l'idée à la minute ici.
Allô, bienvenue à ce nouvel épisode des Neurodivertissantes. Aujourd'hui, c'est un épisode où on reçoit un camarade de classe, Fran et moi, parce qu'on étudie le programme cours de deuxième cycle en équité, diversité et inclusion en milieu organisationnel à l'UQAR.
Parce qu'on n'est absolument pas des éternelles étudiantes, là.
Non, vraiment pas, pas du tout. Vraiment pas. Puis Mathé Manuel n'est absolument pas dans notre cours aussi. On n'a pas du tout converti des gens, pas du tout. Mais bref, c'est ça. Fait qu'on a rencontré Sylvain Lebé dans ce cours-là. On le trouvait fort intéressant. Et là, on a décidé qu'on allait le recevoir aujourd'hui. Donc, bonjour vous deux.
Allô.
Bonjour.
Qu'est-ce que tu voulais dire, Fran?
J'allais juste dire... Sylvain qu'on trouve fort intéressant, je vais reformuler dans Sylvain dont on boit les paroles lorsqu'il participe en cours.
Oui, exactement. C'est hallucinant, mais vous allez voir, il y a un parcours, on va en parler, mais il y a un parcours absolument impressionnant. Donc, c'est un homme d'une culture vraiment intéressante dans le cadre du handicap en général et des droits. Et bref, il y a plein de choses à dire. Donc, allô Sylvain, veux-tu nous parler un peu de ton parcours? Parce qu'il est écoute, il est tellement riche.
Ben, allô à vous deux. Tout d'abord, ben, merci d'avoir pensé à moi et merci pour les bons mots. Je suis content de voir que je ne suis pas le seul qui est un éternel étudiant. Moi, on m'avait dit qu'après le secondaire, je n'irais pas tellement loin aux études. Ouais. Et j'ai fait les 3 cycles d'études et j'ai été infidèle à l'UQAM. Donc, je suis un pur produit pour aller à l'ENAP faire un DESS. Et là, j'en fais un deuxième à Rimouski, donc je trouve que le métier d'étudiant, même si on avance en âge, est une belle qualité à avoir parce que ça nous permet de rester à jour et de rencontrer des gens formidables comme vous. Mon parcours, ben d'abord, je suis une personne handicapée.
Oui, puis d'ailleurs, je vous l'ai dit en hors ongle, mais ça m'a pris du temps à savoir que tu es une personne handicapée. Pourtant, c'est un handicap qu'on dit visible, mais j'ai été longtemps, parce que tu sais, dans une salle de classe virtuelle, on voit juste le haut du corps, fait que vas-y.
Tout à fait. Ben, en fait, je suis une personne en fauteuil roulant, je suis atteinte d'une espèce de maladie évolutive musculaire, qui n'est pas de la dystrophie musculaire, mais qui est dans cette famille-là. J'ai eu un diagnostic à l'âge de 8 ans, les médecins avaient dit à mes parents que j'allais marcher jusqu'à l'âge de 10 ans et qu'après j'allais être très, très limitée au cours de ma vie, donc il fallait que je fasse attention à mes choix de carrière puis que je sois fragile. Donc, vous comprendrez que pour les gens qui nous écoutent, j'ai plus que 18 ans aujourd'hui, je suis bipède à temps partiel et ça ne m'a pas empêché de travailler. Par contre, mon parcours de vie peut peut-être faire le lien avec des parcours de vie de nouvelles populations dites en situation de handicap. On pourrait parler de l'autisme, c'est que c'était pas positif quand moi j'étais enfant ou adolescent d'être une personne handicapée avec un handicap moteur. Aujourd'hui, c'est tendance, c'est acquis, c'est commun. Oui. Par contre, le fait que moi c'est visible, je pense que l'empathie est possible parce qu'on voit les défis. Hein. Si je suis en train d'essayer d'ouvrir une porte, si j'ai de la difficulté, on va pas se poser la question, on va m'aider à ouvrir la porte. Pour quelqu'un qui a une surcharge cognitive, si cette personne-là peut se désorganiser, s'il y a trop de bruit, on va peut-être dire, ben fais des efforts, je comprends pas pourquoi, c'est pas si fort. C'est là où la grande différence, mais c'est pour ça que je suis très heureux de participer à vos balados que j'écoute. Pourquoi? Ben parce qu'il faut, je pense, par la prise de parole, permettre aux gens de comprendre cette réalité-là. Hein, si je posais la question, Solène, c'est quoi la grandeur de tes chaussures?
Moi, je porte du 9.
Fran, c'est quoi la grandeur de tes chaussures?
Du 8.
Et moi, c'est du 7. Est-ce qu'il y aurait un magasin qui aurait l'idée de vendre des chaussures seulement pour les pointures 7?
Effectivement, si je serais bien malheureuse.
Tous des pieds différents, pourquoi on aurait tous les cerveaux pareils?
Et voilà, c'est tellement bien dit.
Si simple comme image, mais si efficace. Je suis bien d'accord.
Donc, ben voilà, j'ai fait mon parcours en essayant le plus possible de cacher cette réalité-là. Pourquoi? Ben parce qu'elle n'était pas positive. Quand j'étais plus jeune, il y avait des télétons pour présenter les personnes handicapées. Il y en avait un par mois. Quand j'ai fait ma maîtrise, c'est ce que j'ai réalisé. Je faisais mon histoire de vie que j'ai essayé d'analyser dans un parcours de la construction sociale d'une personne handicapée, mais d'un adolescent. Mais aussi dans le parcours de la construction identitaire du peuple québécois. Donc, c'était à la fois sociologique et communicationnel. Et j'ai réalisé que c'est difficile de voir quelque chose de positif s'il n'y a pas de personne positive avec le même défi que toi. C'est un peu la même réalité pour les femmes dans des domaines jadis réservés aux hommes. Hein? Mm-hmm. Qu'est-ce qui va être difficile pour elles? C'est de faire le travail ou le fait que c'est des femmes qui sont traditionnellement dans un milieu réservé aux hommes? Donc, c'est là-dessus que j'ai fait mon bac à l'UQAM en art dramatique, un certificat en création littéraire, une maîtrise en communication. Et après, ben, je suis allé explorer la vie. Je suis retourné à l'école faire un DSS en administration publique à l'ENAP. Et tout dernièrement, même si j'avais dit c'est fini, je n'étudie pas, je suis tombé sous le coup de cœur du DSS en équité, diversité et inclusion. Et ne serait-ce que d'avoir le plaisir d'être ici aujourd'hui puis de vous avoir rencontré, c'est voilà. Tout va ajouter à ce DSS-là.
C'est fou les opportunités que ça crée. Moi, j'en reviens pas aussi. Les rencontres via ces choix de continuer à se former, de s'éduquer, le partage d'expériences est tellement riche dans le cours. Moi, je trouve ça assez hallucinant.
Et il y a peu de moments où on peut se rencontrer, encore plus en temps de pandémie. Puis il y a peu de moments où on peut parler d'enjeux aussi à la fois importants, intenses et personnels que la différence, le handicap, des notions d'égalité réelle versus d'égalité formelle, d'équité, d'égalité, de diversité, d'inclusion. Tu sais, l'inclusion, là, c'est plus que de prévoir du lait de soya à la machine à café. Parce que si on résume ça par avoir du lait d'avoine puis un biscuit sans gluten, ben je trouve que c'est qu'une perspective alimentaire.
Moi, je me rappelle la première fois que je t'ai remarquée, c'était notre premier cours, puis on discutait des pauses dans le cours. Tu sais, le professeur nous offrait la possibilité d'avoir une seule pause de 20 minutes ou deux pauses de 10 minutes. Puis il y avait Fran et moi qui préféraient avoir deux pauses. Puis on avait dit dans la présentation qu'on était neuroatypique. Puis toi qui avais. Tu étais venu en disant ben il y a deux personnes neuroatypiques dans le groupe, les deux veulent deux pauses, je pense qu'on devrait être inclusif et leur accorder ça, puis c'est comme waouh.
Merci.
Mais je suis tellement contente.
Je suis touchée que tu l'aies relevé, mais le but c'était pas de le relever pour avoir l'air oh, gars, il est donc fin ou il est donc bon.
Non, mais même pas, je l'ai même pas senti comme
non,
ça.
Mais c'était juste par l'idée, c'est que comme je suis commissaire à la commission des droits de la personne, j'essaie toujours d'être le plus ouvert possible et je peux pas juste revendiquer un droit pour moi. C'est pas ça l'inclusion, c'est pas ça la diversité. Si c'est bon pour une personne en fauteuil roulant, mais que ça peut être bon pour une poussette de bébé, que ça peut être bon pour un ou une livreur si c'est bon pour quelqu'un qui arrive avec deux cafés, une porte automatique, tant mieux.
Mm-hmm. Oui, ben d'ailleurs c'est parti de là les portes automatiques. Là, c'était pour les personnes handicapées. Puis maintenant, aujourd'hui, on est plusieurs à s'en servir, ne serait-ce que par paresse.
Okay. c'est vraiment la posture qu'on a dans le podcast. On le dit souvent, on est pour l'inclusion de la neurodiversité, non pas de la neurodivergence, parce que la neurodiversité, c'est toutes les personnes, c'est tout l'éventail, la panoplie de nuances dans le cognitif, mais bien au-delà. Donc, ce qui va convenir, par exemple, un horaire flexible qui convient à une personne autiste va convenir à toutes sortes d'autres personnes. La personne qui a la misère à se lever le matin, le nouveau parent, je veux dire, ça convient à énormément de monde.
Ouais. Moi, je suis beaucoup réfractaire à l'idée de la diversité à la carte basée sur l'identité. Je dis pas que c'est pas bon, mais je dis qu'on n'est pas que notre différence, parce qu'on a tous des différences. Moi, c'est sûr qu'en fauteuil roulant, quand vous me voyez arriver, c'est clair que vous voyez une personne handicapée. Et des gens, quand j'ai commencé à être responsable du bureau des étudiants handicapés de l'UQAM il y a 18 ans, je mettais une cravate et les gens disaient « Pourquoi tu mets une cravate? » Parce que je veux qu'on voit le professionnel avant de voir la personne handicapée. Et on voit des femmes aller en politique, qu'on questionnait leur tenue vestimentaire, et alors qu'on devrait voir la personne qui est là.
Oui. Puis, tu sais, on le dit souvent dans le podcast, il faudrait que la diversité devienne la norme de référence, parce que, en fait, là, c'est que c'est comme plein de critères qu'on compare à une majorité normée, et c'est là qu'on se fait notre notion de diversité. Sauf que ça vient déshumanisant parce qu'il y a certaines pratiques qu'on va tenter d'appliquer de manière inclusive, mais qui, en fait, vont juste aller prendre en silo certaines caractéristiques de la diversité de la personne, puis la dépouille de sa complexité, de son humanité, de toute l'intersectionnalité qui la compose, finalement. Je trouve ça franchement triste, en fait.
La seule norme possible, c'est la diversité. Mm-hmm. Je veux dire, il y a plusieurs années, un couple, c'était un homme, une femme, et il y avait les gays. Et les gays disaient, quand quelqu'un disait qu'il était bisexuel, les gens disaient, oui, mais c'est parce qu'il n'accepte pas d'être gay. Aujourd'hui, il y a bien un groupe qui a évolué dans le sens ouverture, c'est le spectre de l'arc-en-ciel qui définit mm-hmm. le LGBT+. Donc, cette idée-là, si un groupe a été capable de réfléchir à ça, ça m'amène à l'idée qu'il devrait être capable de réfléchir que les gens qui vont aller, les consommateurs et les consommatrices qui vont aller dans le village gay vont être aussi issus de la diversité. Donc, mm-hmm. on doit prévoir ça. Je vais faire, avec le barreau de Montréal, une présentation sur justement l'intersectionnalité. Souvent, les gens vont dire, mais Sylvain, qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi d'être une personne gay ou d'être une personne handicapée? Ben, à la limite, c'est pas d'être gay. Même si je viens d'un courant où avant, il y avait les straight et les gays, aujourd'hui, il y a tout ça, mais bon, j'ai accès à boire une bière dans le village, mais je n'ai pas accès à une toilette pour éliminer la bière. Donc, qu'est-ce qui me discrimine? C'est le code du bâtiment. Donc, c'est le fait d'être une personne handicapée, mais je pourrais me marier, adopter des enfants, et j'ai ces droits-là. Mm-hmm. Et ils me sont reconnus, mais le droit de l'accessibilité au bâtiment, le droit à avoir accès à certains services, même si le handicap est partie intégrante du droit québécois depuis plus d'une quarantaine d'années, même s'il est dans le programme d'accès à l'égalité depuis une vingtaine d'années également, il y a 1% de personnes handicapées en milieu de l'emploi et la cible à atteindre, c'est 10%. Donc, si je veux être conscient de ça, il y a ma réalité à moi de personne handicapée en fauteuil roulant, mais si je vais à l'autre bout du spectre, il y a toute la diversité qui est aussi liée au handicap dans lequel j'ai inclus mm-hmm. les personnes autistes, les troubles de santé mentale, et ça, c'est le nouveau défi.
Oui, tellement.
Puis, tu sais, les personnes autistes, pour picher des statistiques parce qu'on aime ça, mais tu sais, on dit qu'il y a entre 80 et 85% des autistes qui ne sont pas sur le marché de l'emploi. Donc, tu sais, c'est quand même parlant au niveau des freins qu'il peut y avoir. Puis, tu sais, c'est drôle parce que je participe à la démarche sur l'accessibilité universelle de l'île de Montréal. Et puis, on doit toujours rappeler à l'équipe que ben il y a pas juste le handicap physique ou il y a pas juste les gens qui se réclament du handicap, tu sais il y a toutes les différences cognitives qui sont incluses aussi puis auxquelles il faut penser, ne serait-ce que le bruit, je sais pas moi d'avoir des indications claires pour savoir où aller, etc. Tu sais il y a comme plein d'éléments auxquels penser qui ne sont pas que le handicap physique ou même le handicap visible. Il y a du handicap invisible également, et c'est deux réalités qui sont quand même, somme toute, différentes. T'sais, moi, je peux le cacher que je suis autiste. Toi, tu peux pas cacher que t'es en fauteuil roulant.
Mais je l'ai longtemps caché, c'est ça qui est le grand paradoxe. Comme c'est une maladie évolutive, quand j'avais 20 ans, comme il n'y avait pas de modèle, je l'ai caché. Je sortais dans un bar, puis je donnais les clés à la personne, puis je disais, ben, va ouvrir la porte, moi, je vais aller chercher le courrier pour pas qu'il me voie monter l'escalier. Mmh. Mais c'était que retarder l'inévitable qu'un jour, j'allais être torse nu, il aurait dit, ben, t'as pas beaucoup de muscles. Ben non, j'ai une dystrophie musculaire, mais comment avoir suffisamment confiance en soi à une période où personne a confiance en soi. Je veux dire, on voit des gens qu'on va trouver beaux. Il y a une très belle chanson de Reggiani, un vieux chanteur qui dit « Je voudrais être le monsieur qui passe ». Et quand il prend la peau de ce monsieur-là, une fois qu'il a pris la peau de ce monsieur-là, il dit « je ne veux plus être ce monsieur-là » parce que là, il réalise toute l'ampleur du gouffre qu'il ne voyait pas, de la douleur qui était cachée. Donc, pourquoi ne pas travailler à l'idée qu'on est tous différents et que cette différence-là, elle doit être dans nos pratiques quotidiennes, au même titre que ma grand-mère, que je cite, son plaisir à Noël, à Pâques, ça va être Pâques bientôt, c'était d'avoir tout le monde à sa table, même si je ne mangeais pas de sa sauce à spaghettes parce que je la trouvais trop piquante. Aujourd'hui, je l'ai fait, puis je la trouve pas piquante. Elle acceptait de mettre une bouteille de ketchup sur la table pour le plaisir que je sois avec elle.
Wow,
donc, c'est pour moi, c'est l'inclusion et l'affection. Donc, si je reçois du monde à ma table, je devrais avoir la délicatesse de prévoir qu'il y a des gens qui ne mangeront pas pareil comme les autres, de prévoir qu'il y aura peut-être des gens que le bruit, la musique, mm-hmm. l'environnement va être un facteur de stress, un facteur d'une meilleure soirée. Pour moi, ça, c'est l'empathie, c'est l'affection pour autrui dans l'idée que je veux une soirée belle, pas pour moi, mais pour l'ensemble de mes convives. Et ça, c'est ce que j'aime des notions d'équité, diversité, d'inclusion. C'est des notions transversales à la fois du droit, mais qui amènent une volonté collective, une responsabilité partagée. L'intégration, ça repose sur l'individu. L'inclusion, ça repose sur la communauté.
Oui,
non, c'est donc bien beau et doux de t'écouter, Sylvain, j'aime ça.
Mais c'est vrai!
Aïe, aïe. Mais ça me fait penser, là, vous devez la connaître, puis je sais que j'étais tombée sur l'auto-formation là, de l'OPHQ sur mieux accueillir les personnes handicapées, puis j'avais été très agréablement surprise de voir qu'il y avait justement des scénarios avec les personnes autistes, les personnes avec des enjeux de santé mentale, puis qu'on abordait les notions de la surcharge cognitive, de l'anxiété, puis j'étais comme « Ah, oh, mon Dieu, il me semble que c'est encore trop nouveau, voir que je trouvais ça parlant que je sois surprise de le constater, alors que j'aimerais tellement que ce soit normalisé, en fait.
Et le défi, c'est qu'on parle du trouble du spectre de l'autisme, donc l'éventail.
Mm-hmm.
Donc, si j'ai connu une personne autiste, ben, tu as connu cette personne-là. Tu ne connais pas l'autisme, tu connais la réalité, les défis de cette personne-là. C'est ce qui est difficile quand on veut parler du handicap et qu'on veut regrouper autour de la table des acteurs et des actrices en lien avec le handicap, c'est que ce qui est une situation d'handicap pour moi peut ne pas être une situation d'handicap pour d'autres. Et pourquoi j'adore à l'idée de situation d'handicap, c'est que le handicap, ça repose sur l'individu, mais la situation d'handicap repose sur la communauté et sur des facteurs culturels et environnementaux. La responsabilité revient aux notions que je vous ai dites tantôt. C'est transversal, l'équité, la diversité, l'inclusion. Et là, on a tous un rôle à jouer. Tu sais, quand on veut qu'une fête lève, tout le monde a un rôle à jouer, pas juste les personnes qui nous reçoivent. Et c'est ça que je trouve dommage, c'est qu'on dirait que les gens, sous prétexte de lois, de règles, se déresponsabilisent ou se cachent derrière certaines façons pratiques de faire, de peur de prendre des décisions ou de peur d'ouvrir le dialogue. Mais communiquer demande beaucoup d'efforts pour peu de résultats.
Mm-hmm.
Philippe Breton, mais moi je rajouterais, c'est pas vain d'essayer, là, parce que c'est rien de pire que « Ah, je pensais que tu pensais que tu pensais que tu pensais, puis c'est pour ça que j'ai pensé ça, puis j'ai fait ça comme ça. »
Oui, oui, ben oui, puis tu sais, c'est dur de connaître la réalité de quelqu'un et de se mettre dans les chaussures de l'autre, tu sais, c'est... Enfin, je dis ça, puis c'est encore plus dur pour les personnes autistes, puisqu'on a un déficit de la théorie de la pensée, mais... je pense que c'est difficile pour tout le monde de concevoir la réalité d'un autre point de vue et de parce qu'on le vit pas comme finalement. Tu sais.
Et pour ça, mais je dirais le même défi que la même chose que pour l'idée de la diversité. Quelqu'un qui est racisé, il peut bien dire que quand tu parles de certaines choses, ça le touche. Mais s'il n'y a pas suffisamment la confiance pour dire « Excuse-moi, Solène, tu sais, quand tu utilises ce terme-là, moi, ça me ramène que quand je viens d'un conflit de mon pays qui est utilisé par l'armée, ça me touche. » Mais pour prendre cette prise de parole-là, il faut être fait fort, il faut avoir confiance en soi, puis il faut que le milieu soit propice. Et c'est là-dessus que je trouve que le milieu, il est de moins en moins propice. Mm-hmm. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opinions, mais on s'arrête jamais aux faits.
Oui, puis il n'y a pas de sécurité psychologique. Là.
Non, c'est ça, c'est que ces micro-inéquités-là, tous ces commentaires qui passent dans du racisme ordinaire, des micro-agressions, je veux dire, c'est tellement des... Ça peut tellement être anodin par les personnes qui les posent parce qu'on se rend vraiment pas compte de tout ça, mais les personnes qui les reçoivent avec une ampleur exacerbé parce que ça vient toucher du vécu, ça vient toucher des expériences traumatisantes, ça vient toucher plein de choses. Puis bref, une culture inclusive, ben ça va être celle qui crée la sécurité et le support pour que cette personne-là puisse s'exprimer, mais pas que. Je veux dire que d'autres personnes aussi speak up comme quand elles sont témoins de ce genre de micro-agression, micro-iniquité-là, mais on est encore très inconfortable avec ces discussions-là, puis on a toute la misère du monde à prendre parole, en fait.
Puis on n'est pas tous faits forts pour non. parler de quelque chose qui est si lié à notre défi mm-hmm. quotidien. Moi, j'ai pour philosophie de vie que la vie est possible parce qu'il y a des jours de pluie et des jours soleil. Mm-hmm. Ah, s'il y a oui. juste des jours de pluie, c'est le déluge. S'il y a juste ouais. des jours soleil, c'est le désert. Ouais. Donc, c'est normal qu'on va avoir des journées où on va être plus fatigué, plus amorphe. Moi, si mon transport adapté est à l'heure, si j'arrive au bureau puis je suis capable d'enlever mon manteau par moi-même ou qu'une collègue me dise « As-tu besoin d'aide? » puis qu'elle accepte si je dis non, qu'elle voit pas ça comme une frustration, mais qu'elle voit qu'aujourd'hui, Sylvain est capable de le faire. Si la porte automatique fonctionne, si la toilette pour les personnes handicapées est utilisée par une personne handicapée et non pas par quelqu'un qui préfère utiliser cette toilette-là parce qu'elle est plus propre, ma vie est parfaite. Mais si mon transport adapté est en retard, si je n'arrive pas à enlever mon manteau puis je voulais le faire par moi-même, si la toilette est défectueuse, la porte automatique ne fonctionne pas, c'est une espèce de une heure de mon réveil à mon arrivée au travail, je n'ai eu dans la gueule que mes incapacités. Mm-hmm. Et je pense que personne n'est capable de grandir et de fleurir si on est toujours en train de lui renvoyer ses différences. Et c'est là-dessus qu'on doit comprendre que quand quelqu'un dit qu'il en a assez, c'est la goutte que toi, tu viens de rajouter dans un verre qui se remplit depuis la journée, l'avant-journée, la semaine d'avant, l'année précédente. Donc, sois conscient que tu as une responsabilité, peut-être pas si grande que la personne veut bien te le dire, mais que tu as quand même une responsabilité mm-hmm. du geste que tu as posé. La meilleure chose à faire, c'est de dire « je suis navré, je suis désolé, maintenant, peux-tu m'aider à ce que je peux comprendre pour éviter? » Ça, pour moi, c'est intéressant. Mais ça mm-hmm. prend de l'humilité.
Oui, puis ouais. je pense qu'il y a un piège dans lequel il faut faire attention de ne pas tomber, c'est parce que souvent, ça va faire vivre du malaise, et là, les personnes vont souvent aller chercher à soulager ce malaise-là en se confondant en excuses, puis je veux dire, là, ça redonne complètement l'imputabilité à la personne, on va dire, peu importe son profil, là, mais bref, ça donne l'imputabilité à l'autre de rassurer. Puis là, à un moment donné, je pense qu'il faut être capable de dire « Ok, j'ai fait une erreur, je m'en excuse, je veux apprendre, puis on passe à autre chose », parce que si tu tombes dans juste repitcher tout ton malaise, on n'avance pas, puis mm-hmm. c'est un enjeu différent, mais qui reste présent.
Oui, puis c'est pas cette goutte d'eau-là qui est si catastrophique, c'est juste qu'elle s'accumule, puis mm-hmm. tu sais, c'est, faut pas prendre, c'est pas parce que, je vais prendre mon exemple, mais tu sais, c'est pas parce que je suis en, je sais pas moi, en surcharge, puis que je suis en burn artistique, puis que ça va vraiment pas, que c'est ta faute, c'est juste que là, oui, ça m'a beaucoup touchée, mais il y a une partie qui m'appartient à moi. Mm-hmm, ça vient de mes traumatismes, puis c'est pas forcément entièrement ta faute, mais apprends-le puis refais-le pas, par exemple.
mais ça peut être intéressant dans une perspective, si on dit qu'on reste un éternel apprenant, puis on est tous des étudiants et des étudiantes, mm-hmm. on a ça en commun, quand le moment est opportun et que la relation... Ça veut pas dire qu'on va devenir des amis. Tu dis, écoute, Solène, t'es en congé de maladie. Écoute, moi aussi, j'ai eu ça il y a 6 mois, 1 an, 2 ans. Écoute, si jamais t'as envie d'en parler, si je peux t'aider, n'hésite pas. La porte, elle est là. Après, que tu viennes pas me voir, c'est pas important, mais tu sais que la porte est restée ouverte, puis moi, ça me fait peut-être du bien. C'est la même chose quand on dit à quelqu'un, comme une personne handicapée, souvent les gens vont dire « mais j'aime pas ça quand les gens m'offrent de l'aide ». Oui, mais la journée où tu vas peut-être en avoir besoin, ils viendront pas parce que tu vas tellement avoir fermé la porte. Donc, vois ça dans de « non, merci, aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'aide ». Puis si tu dis oui, ben l'autre question, c'est vrai, mais comment je peux t'aider? Donc, tu responsabilises la personne, dire « écoute, Solène, tu voudrais que je t'aide? Dis-moi comment et moi, je vais voir les suites possibles ». Là, on est dans quelque chose qui est intéressant. Tantôt, Fran parlait des micro-agressions. Ça va être mon anniversaire. Vous enverrez la référence. Il y a un auteur qu'une amie m'a demandé de lire qui parle de la notion de micro-agression, mais en la revisitant. Parce que j'ai toujours été un petit peu titillé par la notion de micro-agression parce que je trouve que si moi, je te dis, ben là, tu m'agresses dans ton propos, on ferme le dialogue que moi, je souhaite. Et cet auteur-là, qui est une femme, si ma mémoire est bonne, je donnerai la référence aux gens qui vous écoutent, la revoit en disant, non, il faut laisser le discours possible. Donc, la reformulation de quelqu'un qui se sent agressé, elle a aussi une part de responsabilité dans la façon dont elle reçoit ça, puis de peut-être s'éduquer aussi que ce n'est pas toujours de l'agression, pour éviter que justement, que si elle dit, ben moi, tu m'agresses, l'autre personne va dire, ben ta façon dont tu me dis que je t'agresse, ça m'agresse. Et là, on a un conflit. Et là, on va avoir besoin d'un avocat ou d'une avocate. Puis là, ça va nous coûter deux bras. Puis c'est pas parce que justice a été rendue que le droit s'est vraiment appliqué. Tu sais, des fois, des excuses et un dialogue mieux senti, une bonne médiation, ça mène la table pour changer la société et les rapports entre nous.
Oui, puis bon, moi, je vais être fatiguante avec ça, parce que c'est pas la première fois que j'en parle, mais je suis une grande, grande fan de la perspective discursive puis de la conversation comme, comme apprentissage expérientiel. Il y a aucune discussion qui est anodine. On est toujours en réponse à nos expériences passées et aux mots de l'autre personne, même si c'est dans l'écrit. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Donc, quand on arrive dans une discussion, puis il y a des théories là-dessus, moi, j'ai plein d'articles en tête, là, mais quand on arrive dans une discussion, on arrive avec le poids de notre passé, l'autre personne aussi, puis si on n'est pas dans l'écoute, on est juste en train de transposer ce qu'on a dans le pre-course, qu'on appelle, dans la discussion. Et après, la résolution, donc le post-course de la conversation, va être complètement influencée par qu'est-ce qu'on va avoir accepté d'apprendre et de moduler avec l'autre personne. Donc, ces conversations-là, effectivement, si on arrive avec le poids de nos agressions, micro-agressions perçues passées, mais qu'on les impose sur l'autre personne qui fait une erreur, on n'est plus capable d'être en dialogue. Et ça coupe tout apprentissage possible. Et chaque personne, en fait, va finir par se confirmer dans ses croyances. Je me confirme dans ma perception d'agression parce que l'autre ne m'a pas écouté, puis l'autre va se confirmer dans son malaise et va continuer son chemin avec ça et porter ça dans les prochaines conversations.
Et on se ramasse avec deux personnes qui sont blessées et victimes. Et ça, voilà, je trouve ça triste dans une perspective de se réapproprier que t'es pas que ça, que t'es pas qu'une femme autiste, que t'es pas qu'une personne gay. T'es un peu tout ça, puis l'être humain évolue. Mais moi, j'ai été élevé par des parents qui étaient peu scolarisés, mais qui m'ont jamais élevé comme une personne handicapée. Ils m'ont élevé dans « tu veux l'essayer, fais-le ». Moi, j'ai joué au hockey, puis quand on a commencé à me confondre trop souvent avec la rondelle parce que j'étais plus souvent sur le dos, j'ai dit à mon père « tu sais, papa, le hockey, c'est pas vraiment pour moi ». J'ai dit « c'est correct », mais j'ai eu le fantasme d'aller chez Canadian Tire, d'être habillé à 8 ans de la tête aux pieds. Après, je suis allé voir ma mère, et j'ai dit « maman, je voudrais faire des claquettes comme Fred Astaire ». Ma mère est allée chercher des souliers claquettes, puis j'ai mis les souliers claquettes. Puis là, j'ai fait trois stepettes, puis j'ai dit, c'est lourd, hein? Fallait que je m'assoie. Puis là, j'ai dit, ben ça fait pas une belle chorégraphie. Tu fais trois stepettes, tu t'assois, tu fais trois stepettes, tu te relèves, tu t'assois. et j'ai gardé les souliers à claquettes dans une boîte parce que je trouve ça beau. Puis un jour, si on me remet un prix, je vais sortir mes souliers à claquettes. Donc, mon rêve, il s'est pas réalisé comme je le souhaitais, mais il est pas mort. Et c'est ça que j'ai envie. Moi, j'accompagne des étudiants, des étudiantes en situation de handicap depuis 18 ans. Et il y avait, le premier étudiant que j'ai accompagné, c'était un étudiant autiste. Il y en avait un il y a 18 ans. Puis aujourd'hui, il y en a une cinquantaine. Puis aujourd'hui, il y a un collectif UQAM de personnes autistes qui se met en place. Oui. Pour moi, là, on est dans la diversité et dans une approche qui s'en va vers l'inclusion. C'est pas parfait, mais le chemin parcouru entre ce que moi j'ai connu quand j'ai commencé dans mon travail puis maintenant, ça me montre qu'on a changé. Donc, la personne autiste, elle existe pas rien que dans le film Rain Man. Puis c'est pas vrai que si je pète des allumettes à terre que je vais te dire « Hey, Solène, il y a combien d'allumettes? » Pas plus que quelqu'un avec une déficience visuelle, on va lui dire « Hey, j'ai un piano au sous-sol, tu veux-tu aller l'accorder? »
Mais toi, puis ça fait quoi ce qu'on disait un petit peu quand on discutait avant l'enregistrement? Ça m'avait fait... ça avait beaucoup résonné pour moi quand tu nommais que cette évolution, il y a eu un moment où on était beaucoup dans, justement, affirmer des droits, affirmer le droit d'exister, puis là, on est de plus en plus dans une espèce de phase de proactivité. Puis encore là, ça dépend des groupes. Il y a des groupes, on va dire, plus avancés que d'autres, de par les histoires militantes, l'activisme, la législation qui l'entoure. Mais c'est vrai que c'est beau de voir qu'aujourd'hui, on a un podcast qui parle de neurodiversité, alors qu'il y a quelques années seulement, l'autisme, je veux dire, c'était absolument pas vu comme un mode de fonctionnement différent. Là, c'est pas encore acquis dans notre société, cette notion de la neurodiversité puis de fonctionnement différent, mais normal. Mais on est quand même plus autant dans la folie, puis le trouble de santé mentale, puis le diagnostic, puis l'horreur, tu sais, même si, bon, il y a encore du chemin à faire. Fait que l'évolution, elle est là, veut pas.
Ah oui.
Ça veut pas dire non plus que même si je trouve que le Québec a innové dans les années 70 par la mise en place de l'Office des personnes handicapées, de la Charte des droits, de la loi 56 assurant le droit et l'exercice des personnes handicapées dans une participation sociale pleine et entière, que tout est parfait, mais ça souligne qu'on a quand même fait un progrès et que l'intégration de certaines personnes, en particulier des enfants, des élèves, dans des classes ordinaires, a été fondateur de la possibilité que des personnes autistes maintenant soient aussi dans le milieu de l'enseignement supérieur. Mais il y a toujours eu probablement des personnes autistes, comme il y a toujours eu des gays avant. Donc, c'est pas parce qu'on en parle plus qu'il y en a plus, c'est juste parce que on arrive plus à comprendre cette réalité-là. Mm-hmm. Et c'est beau, comme société, de réaliser qu'il y a des femmes maintenant dans des domaines qui étaient jadis réservés aux hommes. Et je pense que cet apport-là fait de nous une meilleure société, puis que cette réalité-là de la diversité, du handicap, des personnes racisées, des peuples des Premières Nations, des gens issus des LGBT+, des minorités culturelles, va enrichir nos pratiques et nos interventions. Puis au final, on est tous humains. Je veux dire, ce qui se passe actuellement dans le monde doit nous toucher. De toute façon, il y a une seule planète, hein. Et moi, je suis beaucoup dans des pratiques bouddhistes, puis cause à effet, tout est interrelié. Et on n'est que de passage. Donc, si je peux donner au monde le meilleur de moi et le bonifier de ce que, quand moi, je l'ai reçu, ben c'est un beau cadeau de la vie. Au lieu d'être celui au buffet chinois qui mange tout puis qui n'en laisse pas pour les autres.
Oui, effectivement.
Ah, mais j'adore tes images, je tiens à te le dire. C'est bien, je sais qu'on parlait de la notion des images, mais moi, c'est très, très fort pour moi, les images dans la vie. Ça marche.
Puis moi, ça va, je les comprends bien. Fait qu'on pense à. Ça va.
mais j'aime beaucoup parler avec des images. Puis j'aime beaucoup ce que j'ai aimé. Tantôt, on parlait du handicap non visible. C'est que moi, je l'ai longtemps caché. Mais c'est au moment où j'ai arrêté de le cacher, puis je l'ai dit haut et fort, que c'est devenu comme le centre de ma vie. Je me suis dit, mais si les gens aiment Sylvain, ils aiment aussi Sylvain avec cette partie-là que moi, je n'aimais pas. Je suis en train de regarder un très beau documentaire sur Netflix sur la vie de Andy Warhol. Moi, je pense qu'il est autiste, mais il n'y a rien qui parle de ça. Mais son parcours de vie, la souffrance de ce qu'il est comme homme qui ne se pense pas beau, comme artiste qui ne se sent pas reconnu, comme gay qui ne s'accepte pas, témoigne d'une grande souffrance, mais c'est dans son journal qu'on le voit. Mais au final, ce qui est intéressant, c'est les œuvres qui parlent de ce qu'il est. Mais quand tu fais une œuvre, tu ne la fais pas nécessairement consciemment. Tu l'as fait parce que tu as un besoin viscéral de prendre la parole sous un médium X, et c'est ça qui est parlant, et c'est ça l'héritage que tu laisses. Donc moi, si j'ai longtemps caché mon handicap, et c'est parce que j'ai eu un chien Mira comme personne handicapée physique, et quand je portais des lunettes fumées, les gens y ouvraient la porte parce qu'ils pensaient que j'étais aveugle. Mais si moi, j'avais commencé à pousser la porte, puis qu'on ouvrait la porte, écoute, moi, il n'y avait plus rien pour m'arrêter. Je me ramassais à quatre pattes dans le centre d'achat, le chien tout heureux. « Oh, j'ai une job, je vais aider Sylvain. » Là, les gens, ils me regardaient. « Mais comment ça fait que vous êtes tombé? » « Ben, je suis pas une personne aveugle, mais vous avez des verres fumés puis un chien Mira. » Ben là, j'étais obligé de dire « Ben non. » Je suis une personne handicapée qui a une maladie évolutive et le chien, c'est un chien d'assistance. Mais là, parce que j'étais obligé de l'expliquer, j'étais obligé de me livrer, puis parce que j'étais obligé de le livrer, j'étais obligé d'assumer cette partie-là. Mais j'avais un chien qui était tellement heureux de m'aider. Et je suis sûr que c'était le Dalai Lama à l'intérieur de lui. Je cherchais les épaules, il y a un être humain, il y a un moine bouddhiste à l'intérieur de lui. Jamais je n'ai vu un être vivant me regarder avec des yeux en plein d'affection pour moi, même si je vous le dis, vous allez peut-être moins m'aimer, des fois je le shake fort mon chien dans le sens que quand t'acceptes pas de te casser la gueule, la personne la plus proche de toi, c'est souvent elle qui récupère, mais il m'a aidé parce qu'il branlait de la queue, puis il était vraiment là pour se positionner, pour m'aider à m'appuyer sur son dos, qu'à chaque fois, je le flattais, puis je m'excuse de pas être aussi sage que toi. Et j'en parle. Il est décédé en 2005. Puis le soir, je me couche encore en me disant, mais quel beau cadeau. Mais j'ai réalisé dans mon mémoire de maîtrise, dans les facteurs de ma construction identitaire, que cet animal-là, avec mes parents, avait été fondateur d'une prise de conscience beaucoup plus grande qui me poursuit tout au long de ma vie.
J'aime beaucoup trop notre conversation, là. celle-là me connaît, là, puis je pense qu'elle sait à quel point dans ma tête en ce moment ça explose. Là.
Ah, ben, pareil, hein.
J'en doute même pas, c'est ça. C'est juste que je pense que moi, je déborde plus. Toi, t'es comme contenu. T'es comme meilleur que moi pour ne pas te déborder de tout ça.
Je suis en surcharge aussi.
Ah oui, c'est vrai. On va prendre ça.
Ça fait du bien, mais voilà, je ne suis pas au mieux de ma forme. Donc ça.
Pas de souci, laisse-moi compenser pour toi à ce moment-là dans mon expansivité. Il y a deux choses que m'importe de discuter et de poser la question.
Oui? Ah, est-ce que tu vas poursuivre la conversation? Parce que sinon, moi, je veux dire une anecdote. Là. Pour une fois, ça va être mon anecdote. Enfin.
OK. C'est en lien avec ce que Sylvain disait.
OK.
Si tu veux, je le fais. Puis après, on revient à ton anecdote.
OK, parfait.
Dans le fond, il y a deux choses que je voulais nommer. C'était le fait que, tu sais, tu parlais des lunettes fumées. Moi, ça me frappe à quel point on a encore ces symboles dans notre société pour aller parler de diversité, à quel point nos raccourcis cognitifs, nos catégorisations sont fortes. Et c'est autant un levier pour travailler, parce que c'est le fonctionnement du cerveau, que c'est une limite puis une faiblesse. Puis j'essaie encore de voir comment on peut, instrumentaliser, mais de manière positive, dans le sens de comment on peut utiliser cette tendance naturelle. Mais en même temps, Christy, que ça crée des œillères, puis du gatekeeping, puis des limites. Fait que ça, c'était comme mon... Oui,
puis vas-y. Moi, je suis un petit peu plus vieux que vous, et les verres fumés, ça fut tendance avec Corby Hart dans les années 80-90. Donc, c'est souvent associé à une prétention, à quelqu'un qui se voit comme un artiste, alors oui. Beaucoup moins à un besoin. Mais juste avant de passer une anecdote de Solène, moi, dans ma vie, avec mon chien, j'ai fait une télévision. Et après ça, on m'a appelé pour passer une entrevue pour un emploi. Donc, je suis avec mon chien Mira, j'ai mes verres ordinaires qui sont pas des verres fumés. Je passe l'entrevue, on me dit « Écoutez, Monsieur Lemay, on aime beaucoup votre approche, on aimerait ça que vous soyez formateur. » C'est mon premier emploi que j'ai vraiment à temps plein. Par contre, comment vous aimeriez recevoir les documents, en braille ou en gros caractères? Vous m'avez vu à la télévision avec un chien Mira. C'est un organisme spécialisé que je ne nommerai pas qui embauche des personnes handicapées pour développer un volet formation à l'accueil des personnes handicapées. Ils présument, parce que j'ai un chien Mira que je vois quand même et que j'ai peut-être un résidu visuel suffisamment bas pour être considéré comme une personne aveugle. Et là, dans ma tête, je fais « Mon Dieu, c'est-tu la seule fois dans ma vie où j'aurai pas la job parce que j'ai pas le bon handicap? »
Mais ça me fait juste... Un, j'ai juste le goût de dire « I wear my sunglasses at night », là. Faut sachez que ça...
J'ai le dire parce que mon anglais aurait pas été aussi bon que le tien. Mais on mettra le clip sur YouTube pour les auditeurs.
Je me suis venue de chanter parce que... Puis je sais que c'est aux plus grandes dames de certaines personnes qui trouvent ça hilarant quand je chante, mais ça n'arrivera pas. Fait que juste ça. Première chose. Puis deuxième chose, c'est comme quand les personnes... Quand une personne aveugle est là, se mettent à parler plus fort. Voilà. Mais il y a aussi le fait que il y a des drôles de choses comme ça. Quand on cherche une adresse en voiture, somehow, souvent, on va baisser le volume pour mieux chercher.
Oui, mais donc, c'est scientifiquement que, en fait, c'est qu'il y a trop de stimuli, donc on va baisser la musique pour se concentrer sur notre vue.
Voilà. Mais là, Sylvain, je vais aller à ton anecdote, puis après, dans le fond, mon autre commentaire, ben, je relancerai Sylvain sur cet enjeu de tension identitaire. J'ai vraiment un point que je voudrais aborder, mais là, je veux qu'on passe la poque à Solène, parce que...
Écoute, pour une fois que j'ai une anecdote, en fait, tu disais que t'avais checké ton chien, puis ça m'a fait penser à un événement de ma vie à moi. Tu sais, j'ai eu beaucoup de traumatismes quand j'étais plus jeune, j'ai été battue, etc. Puis, ça, à un moment donné, je me suis rendu compte que je battais mes chats. Que je frappais mes chats quand j'étais pas contente. Et que, même chose pour mes amis, genre, je donnais une tape qui était gentille, mais je donnais une tape quand même pour, tu sais, ben, voyons ce que t'as fait là. Puis ça a été comme un gros, ça a été un moyen, en fait, de me rendre compte de ça et de faire tout un travail avec ma psy sur mon traumatisme à moi. Fait que ça a été comme un, je sais pas, un moyen de visualiser, de me rendre compte, mais si je fais ça à des gens que j'aime, il y a un problème. Fait que, voilà, c'était juste une anecdote, pas plus,
Mais je te dirais ce qu'on réalise peut-être avec des animaux de compagnie avant de le réaliser avec nos amis, peut-être nos parents dans certaines familles qui sont pas dysfonctionnelles, mais on va être sincère, souvent la famille, c'est difficile, hein, pour plusieurs raisons. C'est l'amour inconditionnel. Ce chien-là, même si je pouvais être en colère parce que je m'étais fait mal, il comprenait ma colère, il faisait low profile, puis quand je me mettais à pleurer, il se rapprochait. Et ça, je pense que c'est la sensibilité qu'on a peut-être perdu comme être humain. Et je me dis, oui, l'empathie n'est possible qu'à partir du moment où je connais un peu de ton histoire. Donc, si je te voyais, mettons, être dur avec ton chat, mais que je sais que c'est quelque chose que tu veux te détacher, que tu reproduis de façon consciente, inconsciente, si je te dis, Solène, fais attention, je pense que tu es rough avec ton animal, mm-hmm, au regard de ce que tu sais, mais que je te le dis sur un ton empathique, tu vas peut-être me dire, oh mon Dieu, merci de me le rappeler.
Moi, je ne le voyais plus.
Ben c'est ça. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une relation. Mais l'empathie vient de... Quand je connais une partie de ton histoire, tu vas faire partie intégrante de mon histoire. Je peux pas, moi, avoir de l'empathie uniquement pour les Ukrainiens. Je dois en avoir pour les Russes aussi. Puis à la limite, je devrais en avoir aussi pour quelqu'un comme Poutine. Je peux être totalement contre, mais ça reste un être humain qui est probablement très souffrant puis qui explique. Ça n'excuse pas le comportement, mais ça nous aide à le comprendre et après de trouver d'autres mécanismes pour éviter qu'on reproduise ça,
ouais, c'est ça
dans d'autres milieux.
Exact. Ah, oh, philosophique tout ça.
Fran, tu voulais parler, c'est à toi, là.
Oui, non, excusez, mais je réfléchis à ce que Sylvain vient de dire, ça résonnait beaucoup. Non, je voulais te ramener sur cet enjeu un petit peu de la construction identitaire, parce que il y a comme une espèce de tension paradoxe dans ce qui est ressorti, dans tes propos tantôt, qui me parle beaucoup. Cette idée de, tu sais, on veut cacher, camoufler, tamiser le handicap pour qu'il ne soit pas que... qu'on ne soit pas que notre situation de handicap, notre handicap, mais il y a aussi cet enjeu de... Des fois, on a ce besoin de l'affirmer avec fierté. Tu sais, c'est comme vraiment un équilibre qui n'est pas évident à tenir, parce que il faut l'assumer pleinement, mais on ne veut pas que ça devienne non plus le halo principal de notre identité, mais on s'est construit avec ça, puis encore plus avec des diagnostics tardifs, on en a souvent parlé là, avec Solène et Mélissa, où on se construit longtemps dans un décalage avec notre environnement sans comprendre, puis quand on met les mots dessus, ben, tu sais, il y a comme une reconstruction à faire. Bref, excuse-moi, ma question n'est pas formulée, mais je ne sais pas si ça t'inspire des choses que je te lance.
Oui, Fran, en fait, je te dirais, l'amour inconditionnel des animaux, on doit avoir, je pense, ce même amour-là vis-à-vis de nous. Mm-hmm. Autant pour les bonnes choses que les choses moins bonnes qu'on fait. Mais moi, personnellement, dans mon parcours, mais aussi dans ma pratique, on ne peut pas souvent avoir cet amour-là pour soi à 18, 19, 20 ans. Cet amour-là vient, je pense, avec une expérience positive de la vie, une relation amoureuse qui fonctionne bien, un travail qui nous permet de démontrer notre plein potentiel, mais notre potentiel réel. Et ça vient avec le temps. Mais il y en a que moi, je me rappelle, qui étaient brillants bien avant moi. Moi, je pense que je suis un peu comme le vin et ça a pris du temps avant que je donne tout mon parfum, mes arômes. Mais je le dis, je n'étais pas bon à mon bac. Pourtant, j'aimais ça, l'art dramatique, mais je n'étais pas... Je suis quelqu'un qui a besoin Moi, je pense que Carl Rogers, quand il a parlé qu'il y avait des gens qui avaient besoin d'un savoir utilisable, ça m'a parlé. Et j'ai tout de suite, quand j'ai découvert ça à ma maîtrise, j'ai fait, mon Dieu, mais si j'avais eu un enseignement comme ça, j'aurais été meilleur. Mais moi, je le dis, là, et j'ai jamais honte de ça, parce les multiplications, je ne comprenais pas ça.
Je compatis tellement.
3 × 3, je ne comprenais pas ça. Mais quand j'ai réalisé qu'en fait, c'était pas une multiplication, c'était 3 plus 3 plus 3, 3 fois. Sauf que ça va bien, là, tu fais... Mais quand t'es rendu à 12 x 120, OK, tu fais des paquets de 12, c'est long, là, puis t'as pas de temps supplémentaire. Et je ne comprenais pas, je le dis, là, avec toute humilité, que passé et demi, on tombait à moins 25, moins 20, moins quart. Quand tu me demandais l'heure, passé et demi, j'étais incapable. Enfant, là, j'en avais des sueurs, et je me rappelle être... avec des gens, mais il n'y aura pas d'emploi pour moi, parce que je ne serais pas capable de voir l'heure. Mais quand la montre numérique est arrivée, là, mais je dis, c'est pas une soustraction, c'est une addition. C'est 35, 40, 45, 50!
Mais ça parle de comment il y a cette notion d'inclusion qui réside dans l'environnement, parce que... avec l'évolution de la technologie, moi, je sais pas combien de profs nous ont dit « Faut que vous appreniez les maths parce que vous aurez pas votre calculatrice toujours à portée de main. » Ha ha ha, quelle bonne blague! On a tous et toutes notre calculatrice sur notre téléphone maintenant. Fait que...
Mais oui, sur notre montre, oui.
Ma hantise des maths, je veux dire, je souffre beaucoup moins de ce stress dans l'environnement technologique actuel. C'est pas vrai que j'ai besoin de temps m'auto-géré par rapport à ça, là. Mais c'est ça a appris que l'évolution accompagne justement la technologie accompagne l'environnement.
Moi, je pense que c'est ma sensibilité et mon amour des arts qui ont équilibré le cancre que j'ai longtemps pensé être. Mmh, ouais. Je lisais très bien, très, très vite, mais écrire arbre avec un H, je trouvais ça tellement joli parce que c'est deux arbres, puis la barre au centre, c'est un hamac.
Wow, j'aime ça.
Mais, je savais pas, mais si on me demandait de faire une dictée, mettre des points, j'y allais. Ah, tiens, un point, ça serait joli, là, une virgule. Mais c'est quand j'ai commencé à réaliser que quelqu'un me disait, mais tu sais, une virgule, c'est une respiration. Mm-hmm. Puis un point, c'est que tu changes d'idée. Puis là, je dis, ah, mais c'est comme quand on a fini le plat principal, puis que maman va préparer le dessert. Mm-hmm. Mais c'est ça que j'avais besoin. Mais pour avoir ça, faut avoir des enseignants, des enseignantes qui vont être sensibles à cette réalité-là. Mais malheureusement, souvent, l'éducation, pour tous les cycles, hein, du primaire jusqu'à l'enseignement supérieur, c'est souvent une approche très normalisée. Oui. Et c'est un contenu large. Et moi, c'est quand je suis arrivée à la maîtrise que je me suis mis à poser beaucoup de questions. Et ça me touche que ce que Solène a dit tantôt et Fran, que dans le cours, vous avez mis ma prise de parole. Mais à la maîtrise, j'étais déjà plus vieux que les gens qui faisaient la maîtrise, que des gens plus jeune vient de me dire, mais Sylvain, tu illustres tellement bien les propos, alors que moi, je faisais les lectures, des fois je comprenais pas, mais je faisais des liens. Puis là, l'enseignant, oui, tu fais un bon lien, mais j'avais besoin de ce savoir-là. Mais dans le cours qu'on fait actuellement, et je réalise que dans beaucoup de cours où j'accompagne des étudiants à rencontrer les exigences académiques, on ne veut pas cette créativité-là, puis cette innovation-là de pensée. Ce qu'on veut, c'est l'étudiant ou l'étudiante qui répond aux exigences du plan de cours, et c'est lui qui a les meilleures notes. Et quand on fait ça, moi, ça tue ma créativité, ça tue mon énergie à poursuivre la scolarité, parce que ça me ramène le petit cul qui était pas bon à l'école, qui écrivait arbre avec un H. On me disait, OK, Sylvain, c'est quoi un adverbe de complément d'objet indirect? Je ne sais pas c'est quoi, puis ça ne m'intéresse pas de le savoir, mais si tu m'illustres, les si mangent les raies. Si tu dis « avait », tu peux mettre un accent aigu ou pas un accent aigu. Ces trucs-là, là, je comprenais. Mais de me dire une règle qui n'est pas assez, c'est qu'en plus, moi, je suis allé à l'école 3 jours/semaine et les 2 autres jours, j'étais hospitalisé pour des traitements. De ma 3e année jusqu'à mon secondaire 1, qui est en fait une reprise de la 7e année qui n'existait plus. Donc, j'ai doublé ma 6e. On m'a dit que c'était une 7e. Donc, je suis allé à l'hôpital avant que j'arrive au secondaire. Et je le dis avec toute l'humilité, si ça n'avait pas été des arts et du profil professionnel en arts appliqués et de ma technique au cégep, probablement que je ne serais pas là aujourd'hui pour vous parler, parce que je n'aurais pas survécu à ce régime pédagogique-là qui ne laissait pas de place à moi et qui me laissait sous-entendre que je ne serais jamais bon dans rien.
Mm-hmm. Oui, oui. Ben, celle, je ne sais pas si vous allez, mais ça va être un peu plus long. Fait que...
Ah oui? Ben, en fait, j'allais dire que je me reconnais vraiment beaucoup. Moi, c'est pareil. Là, j'ai fait le... Ben, on l'a dit tantôt, on a les deux fait un bac en art dramatique. Là, on se reconnaît, on se rejoint là-dessus, mais... Moi aussi, les arts, c'était tellement important parce que je suis extrêmement bonne en français, ou en tout cas, je pense l'être. On m'a dit que je le suis. Mais moi aussi, les règles de grammaire, je comprenais rien. Là, j'ai aucune idée de ce que c'est. Je suis un peu meilleure aujourd'hui, mais mon Dieu, ça fâchait mes profs parce que, tu sais, j'étais nulle en grammaire, mais j'avais tout le temps des 100% dans les dictées. Tu sais, c'était un paradoxe total. Fait que je me reconnais là-dedans. Puis je me reconnais aussi dans le besoin d'avoir les arts et la créativité. C'est même dans ma carrière aujourd'hui, si j'avais pas l'aspect créatif, oublie ça, je meurs.
Mm-hmm. Vincent Golojac, qui est un auteur que j'aime beaucoup, a dit « Je suis le produit de l'histoire dans lequel je cherche à être le sujet. » Moi, j'ai grandi avec la méthode Sablier où on se mettait à appeler au son « maman, m-a-m-a-m ». Donc, « arbre », il doit avoir un « h ».
Mais oui.
Et après... on se questionne de pourquoi j'ai pas été bon, mais en plus, j'ai été absent. Ce qui est important, et c'est là où j'aime ma capacité de résilience, c'est ce que j'essaie d'apporter à des étudiants, des étudiantes, de là aussi de prendre des prises de parole avec vous. Toute tribune pour moi est valable. C'est de dire à la personne, sois plus grand que ta situation personnelle puis les défis que tu rencontres. T'en as des qualités. Tu les vois peut-être pas, puis il faut qu'il y ait d'autres personnes qui soient capables de dire, OK, moi, c'est la cuisine. Quand j'ai appris que un tiers plus un tiers, j'ai jamais su combien de tiers ça allait faire, ben je mettais une tasse d'un tiers, puis je faisais une autre tasse d'un tiers, puis là, je mélangeais ça. Puis Puis si on me disait Jeannette, parce qu'à l'époque c'était Jeannette, elle a fait une tarte aux pommes. Et Marco a mangé un tiers de la tarte aux pommes. Et l'ami de Marco, j'ai froid, a mangé une demi-tarte. Combien de tartes aux pommes reste-t-il? Ben, je dis, pourquoi Jeannette a pas fait deux tartes aux pommes? Il y en aurait eu pour tout le monde. Mais là, on ne donnait pas de points. Et j'ai vu une fois passer qu'un enfant qui disait il fallait qu'il calcule les voitures rouges qu'il avait, mais la question était tellement articulée que tu aurais eu l'impression que c'est un enfantiste. Il répond à la question, mais il donne pas la bonne réponse. Mais il va perdre les points parce qu'il donne pas la réponse attendue. Mais la réponse... Est-ce qu'elle est valide au regard de la question? Tu sais, si on dit « qu'est-ce qu'on mange ce soir, maman? » ou « qu'est-ce qu'on mange ce soir, maman? » Dans les deux choses, on mange quelque chose, mais on ne mange pas la même chose. La virgule fait tout son sens.
Mon premier réflexe quand tu parlais de ton exemple de Jeannette et Marco et des tartes aux pommes, c'était à quel point les énoncés étaient stéréotypés. Ça, c'est un autre combat. Ensuite de ça, ça me fait penser au fait que souvent, moi, les partages sur les réseaux sociaux, tu sais, justement, d'exemples de questionnaires que des enfants ont répondu, puis moi, j'adore ces réponses à côté de la plaque parce que je le fais beaucoup trop. Et je me souviens, il y a un jeu qui s'appelle Telestration. Le but du jeu, c'est genre... t'écris un mot, la personne d'après dessine ton mot, la personne d'après essaye de deviner ce que t'as dessiné, puis ça fait un effet de transformation, puis tu regardes l'évolution entre le mot de départ et la compréhension finale. Ce jeu est phénoménal, mais moi, quand je vois, je reçois les dessins, j'ai toute la misère du monde à en faire un sens. Je décris des affaires ultra concrètes et objectives, et dans le coin droit, il y a tel élément ici et ça, et je déconstruis beaucoup, fait que souvent, jouer avec moi à ce jeu-là, ça donne vraiment place à des réponses.
Mais c'est là où l'importance des personnes significatives pour un enfant qui est en train de construire son identité soit créative, soit sensible à ce que l'enfant essaie de dire, mais qui dit d'une autre façon, puis pas dans une réponse attendue qui est la norme de la réponse. Moi, j'ai un enseignant quand j'ai doublé, Gaston Leblanc, qui doit être décédé depuis, qui m'avait dit, il faut écrire. Si vous écrivez 100 lignes, vous allez avoir un diplôme d'écrivain. Puis si vous faites un autre 100 lignes, vous allez être un diplôme d'auteur. Et là, je me suis mis à écrire. J'ai gardé le cahier, là. Un jour, je devrais le publier, mais c'est un enfant qui écrit ce qu'il dirait à l'oral. Ben là, on a mangé des biscuits. Mais là, après, je suis allé dehors, mais là, j'ai vu Solène. Mais là, le chien, il a couru après moi. Puis là, maman m'a grondé parce que j'avais pas serré le lait dans le frigo. Mais là, à l'école, il fallait faire un calcul de mathématiques. Et moi, je suis pas bon en calcul de mathématiques. Et le chien, il voulait que je lance la balle. Mais c'est ça sur 100 lignes. Avec français pourri. Écoute, et c'est pour ça qu'un jour, si je vais à un prix, je vais avoir mes souliers à claquettes, puis je vais présenter cette écriture-là pour dire, si vous reconnaissez le talent de ce que je suis devenu, ben voyez le petit cul. Et dans mon bureau... Mon copain m'a donné quelque chose qui m'a beaucoup touché. C'est des photos de moi dans une machine à photos. Il y en a plus, mais quand j'étais jeune. Donc, j'ai un manteau en simili-cuir, puis j'ai une casquette, puis je l'ai enlevé. Puis les gens qui viennent dans mon bureau, les étudiants, les gens disent, est-ce que c'est vos jumeaux? Je dis oui, mais j'ai pas d'enfant. Et des fois, quand la relation est là, je dis non, c'est l'enfant que j'ai été pour ne jamais oublier que c'est le professionnel maintenant qui est là, mais qu'il reste pas loin, cet enfant-là, créatif, mais aussi l'enfant blessé, l'enfant vulnérable qui est dans des situations. Et juste avant de laisser la parole à Fran, des fois j'accueille des étudiants qui ont 6 pieds 2, 4 pieds d'épaule, qui sont ce que j'aurais voulu être, c'est-à-dire fort, musclé, qui le matin n'ont pas à se demander comment ils vont être capables de s'habiller puis de monter l'escalier ou de les autobus à plancher bas. Pour moi, là, c'était une pure merveille et invention. Pourquoi? Parce que monter une marche, c'est bien moins handicapant qu'en monter 3. Mais des fois, j'accueille ces étudiants-là qui sont dans des domaines en éducation physique et qui sont incapables de réussir le TECFE, qui est l'épreuve uniforme de français, pour avoir le brevet d'enseignement. Et là, ils sont sur le point de pleurer et je ne peux pas m'empêcher de pas leur montrer la photo de l'enfant pour dire, écoute, maintenant, il y a Solène qui est blessée. Comment, moi, je peux aider à ce que Solène qui est blessée va t'aider à la Solène qui veut devenir enseignante? pour moi, c'est ce qui m'anime, même dans mes journées de pluie où je trouve que les structures administratives peuvent être lourdes, le changement de paradigme qui est souhaité dans notre société est difficile à porter quand, parce qu'il est porté par Solène, il est porté par Fren au quotidien, il est porté par moi, ça peut être usant. Mais quand j'ai une belle rencontre avec une personne en situation de handicap devant moi qui a 20 ans, puis que moi qui a deux fois son âge, dire ben si je peux y faire gagner un peu de temps parce que j'ai tapé une piste, puis j'ai défrayé des trucs, puis que cette ouverture-là, ben je pense que je suis un meilleur individu, puis ça me réconcilie avec l'enfant blessé. Ça, c'est un beau cadeau comme profession.
Écoute, je vois, là, faut malheureusement... Un rap, mais je me peux plus.
Oui, mais c'est ça, moi aussi, je vois le temps passer, puis je suis comme, ouh, je
rentre. Écoute, Sylvain, je savais pas nécessairement à quoi m'attendre avec cet épisode-là. Tu sais, j'arrivais quasiment avec une posture très théorique, et au final, je me retrouve à la fin d'un épisode très poétique. Et, mais en fait, j'aime beaucoup, tu sais, je parlais de la perspective discursive tantôt, mais il y a cette notion du leadership discursif qui est qu'on devient un leader dans les yeux des autres à partir du moment où on fait faire du sens, on fait de la création de sens. Et je trouve ça hallucinant comment aujourd'hui on a parlé du handicap et comment ça peut se transposer à la neuro-inclusion dans cette perspective de faire du sens, de donner des images, d'amener aussi à construire, à générer quelque chose d'autre qui n'était pas là avant qu'on se parle, mais qui est comme juste l'espèce de transcendance de tout ce qu'on a dit, finalement. Bref, je te remercie pour l'expérience.
Est-ce qu'on pourrait penser, Fran, que c'est quelque chose qui est un pont entre des personnes autistes et d'autres personnes, c'est-à-dire que nos sociétés actuellement ont perdu beaucoup la notion du sens. On doit faire des choses, mais on nous dit pas le pourquoi du comment. Les règles sanitaires est un bon exemple, c'est pas tout le monde qui les comprend. Donc si je t'invite à un changement mais je te dis pas les avantages, si je suis pas dans l'idée des gains qu'on peut faire, tu vas être réfractaire à ce changement-là. Exact. Ça c'est comme le syndrome de la coupe de cheveux. Je veux une nouvelle tête, mais il faut pas que ça paraisse. C'est le syndrome du micro-ohm. Il faut que ça soit rapide, mais j'arrive au micro-ohm. Ben voyons, c'est donc bien long.
Les plus longues minutes, les minutes de micro-ohm. Mais c'est prouvé.
Pas loin de 20 ans, il aurait fallu une casserole, un rond de poêle, chauffer ça, que ça aurait collé. Il aurait fallu laver la casserole. Là, tu as tout dans le même contenant, puis on trouve ça long. Oui. Donc, c'est notre rapport au temps. Oui. Donc, il faut être capable d'illustrer qu'il y a une évolution dans la vie et qu'on a tous un rôle à jouer. Et que ce rôle-là, si j'aime beaucoup la pensée scandinave. Les Scandinaves, je suis allé faire quelques conférences dans le passé et un enseignant m'avait dit, tu sais, en Scandinavie, ce qu'on enseigne aux enfants, c'est s'il arrive le meilleur de la classe, on lui dit, si tu es le meilleur de la classe, Sylvain, c'est grâce aux autres qui t'ont épaulé à être le premier. Alors que dans nos sociétés nord-américaines et même européennes, t'es le meilleur en les tassant, en les rabaissant, en les écrasant. Et là, on n'est pas dans la collectivité. Et le sens, il doit être collectif, mais porté par les individus qui font la collectivité. J'aime beaucoup ce que tu dis et je suis très content qu'on ait apporté l'idée du sens. Et je pense que si j'avais une phrase pour me résumer, je dirais « je suis un créateur de sens et de beauté ». J'essaie de voir que de la beauté dans tout. Et je trouve que notre monde, tu parlais de poésie, on manque cruellement de poésie. Et chez les enfants, tantôt tu disais, ils vont nous dire des choses, mais on devrait pas rire. Peut-être qu'ils font de la poésie sans le savoir et qu'ils nous permettent. Moi, j'ai une boîte de Lego. Pas de Lego. Moi, j'ai une boîte de réglettes quand j'étais jeune. J'ai écrit un texte sur ça, où j'avais envie de sortir ma boîte de réglettes parce que c'était toutes des pièces de bois pour faire des bateaux, des châteaux, des tours. Quand on l'a sorti, c'était pour faire des fractions. Fait, tu comprendras que la mathématique et moi, ça m'a pas réconcilié. Fait, j'ai resserré ma boîte de réglettes. Et un jour, si je trouve une boîte de réglettes dans une vente de garage, je me dis, je la jette pour me jouer avec adulte.
Ben j'adore.
Oui.
On aime ça.
Oh, c'est une très belle finale sur laquelle finir de toute façon. C'est la leçon à retenir.
Oui.
Solène, est-ce que tu veux... Avec quoi tu repars de cet épisode? On s'est prononcé Sylvain et moi, mais toi?
Oh, ben, tellement de choses! Mais oui, la poésie, effectivement. La beauté dans la différence également. Puis, je sais pas, de tout ce parcours qui nous construit et qui fait qui on est, que c'est ça nous mène vers l'acceptation de soi. Je pense que c'est c'est beau, c'est positif, ça m'encourage. Ouais. Ça m'a fait du bien dans mon petit cœur aujourd'hui, notre épisode, et que et j'en avais bien besoin, donc merci. Mais ouais, non, c'est
vraiment.
Ben, merci à vous. Ben non, merci à vous, parce que je pense que les choses changent, parce qu'il y a des gens qui initient des changements, ne serait-ce que ce que vous avez fait là et qui est diffusé. Donc, l'important, c'est de permettre des tribunes. Puis aujourd'hui, est-ce qu'on peut juste, même les milieux universitaires, on va empêcher cette prise d'échange-là de parole? La liberté d'expression, elle est importante, même ce qui peut être opposant à nos idées. Mm-hmm. Et c'est ça le fruit de l'enseignement supérieur, c'est d'être capable de faire la différence entre des opinions et des points de vue et des perspectives qui sont basées sur des recherches et sur une constance dans l'historique de l'intelligence que développait l'être humain à travers les âges. Il y a Erwin Goffman que j'aime beaucoup, qui est un micro-sociologue qui parle de l'information sociale. Et l'information sociale, c'est les attributs que je donne à quelqu'un. Y a-tu pas plus aujourd'hui, avec toute l'ère numérique, les attributs qu'on... Ah, mais je pensais pas que t'étais comme ça. Ah, mon Dieu, t'es beau sur la photo, mais en vrai, mais oui, mais c'est parce qu'une photo, c'est un moment figé qu'on peut retoucher pratiquement à volonté et puis grossir nos lèvres.
Et puis c'est sans repartir le débat de tout notre persona social sur les réseaux en ce moment où il y a tout ce décalage. Mais nous n'avons plus de temps. Je sais, c'est difficile.
Il faut s'arrêter.
Sylvain, il faut être invité, maudit.
On sait chacun de nous inviter, mais c'est vrai.
Un plaisir, et c'était vraiment un plaisir d'échanger de manière informelle avec vous. Bon succès encore et bonne suite de balado en devenir.
Merci beaucoup, puis merci à l'auditoire, puis on se revoit la semaine prochaine. J'ai déjà très, très hâte.
Merci tout le monde.
Au revoir.
Bye.
Vous avez apprécié l'épisode? Vos animatrices ont eu du fun à vous le préparer et l'enregistrer. Pour les encourager, n'hésitez pas à parler du podcast à votre réseau, vos amis, vos collègues. Et si vous avez envie d'échanger, vous pouvez les trouver facilement sur la page Les Neurodivertissantes sur LinkedIn et sur Facebook.